Bonjour à toutes et tous. Exercice délicat, mais intéressant aujourd'hui, que de vous présenter la version orale de Mille femmes blanches. Et je le fais avec beaucoup de plaisir. Jim Fergus était l'invité à Uzès en octobre 2019 pour présenter le troisième tome de sa trilogie Les Amazones. Alors celui-ci faisait suite à La Vengeance des Mers, qui était paru en 2016. Que j'espère vous avez pu lire, et de Mille femmes blanches qu'enfin je peux vous présenter aujourd'hui. Je vous lis les quelques notes que j'avais prises lors de cette rencontre. Jim Fergus est né en 1950 à Chicago, d'une mère française, d'un père américain. Ses parents décèdent lorsqu'il a 16 ans. Mais avant, il avait pu aller avec son père sillonner, très jeune, l'Ouest américain. C'est un grand voyageur. Très tôt, il se passionne pour le peuple Cheyenne, dont il connaît parfaitement l'histoire. Pour se documenter et écrire ce premier roman, il part plusieurs mois avec sa caravane dans les contrées décrites dans son livre, à la recherche d'archives et de récits nombreux, tous issus de la tradition orale dont il s'est beaucoup nourri. Quelques années plus tard, il retournera vivre à nouveau, au plus près de ses réserves indiennes, pour écrire la suite de ses aventures. Journaliste pendant 20 ans, c'était aussi un très grand ami de Jim Harrison. Alors, il dit écrire à la première personne pour entrer plus facilement dans la peau de ses personnages, notamment celle des femmes. Très grand féministe, il est convaincu que les femmes vont changer le monde, qu'il y a encore beaucoup à faire, mais que les hommes ont très peur des femmes fortes. Il est très fier actuellement que 3 femmes indiennes siègent au Congrès, même si pour lui c'est encore insuffisant. À la question « Comment les Américains perçoivent les réserves indiennes ?», il répond que la plupart des Américains ne connaissent rien au sujet. Il reçoit un courrier important où les gens s'étonnent de la façon dont les Indiens ont été traités. Même à l'école, c'est pas vraiment dans les programmes. Les politiques se fichent des Indiens qui ne votent pas et ne s'intéressent non plus pas à la politique. Cela commence doucement à changer, mais ils n'ont jamais eu voix dans la société. Actuellement, 370 tribus différentes vivent aux États-Unis, presque autant de langues que de tribus. Certaines sont plus ou moins riches que d'autres. Alors, Jim Harrison est vraiment très déprimé par ce problème d'alcoolisme. Il nous donne aussi une petite précision sur la vie des Cheyennes en nous expliquant que les enfants appartiennent à la tribu de leur mère. Par exemple, un couple mixte, un Sioux qui va épouser une femme Cheyenne, les enfants nés de cette union seront Cheyennes. Les Indiens sont aussi capables de grand mysticisme et de spiritualité, mais aussi de commettre des erreurs, des horreurs. On demande à Jim Fergus d'expliquer le sens du troc, échange de femmes contre des chevaux. Les Indiens, nous dit-il, ont un très très grand respect pour les animaux, notamment les bisons et les chevaux, qui sont très importants dans leur vie. Ils leur accordent la même valeur qu'aux humains. Pour eux, cet échange n'était donc ni insultant ni indigne. Et l'on parle du succès de ses ouvrages en Europe et notamment en France. Jim Fergus explique que ses ouvrages paraissent à l'étranger bien avant d'être diffusés en Amérique. Et lui n'est pas un cas unique. Il est très très agréablement surpris d'être invité dans beaucoup de lieux de culture et de librairies françaises. 600 000 exemplaires vendus en France de Mille femmes blanches, contre, j'allais dire, seulement 1 million d'exemplaires aux États-Unis, bon, vu le nombre d'habitants. Mais surtout, les ventes se font surtout par le bouche à oreille. Alors, revenons au roman. Il est important de replacer dans son contexte le personnage historique qu'était Little Wolf, dont l'auteur s'est largement inspiré. Comme beaucoup d'Américains, je ne connaissais rien ou presque de cette période. À travers les extraits de la vie de Lutalouf, nous aurons un meilleur aperçu de cette époque. L'échange de 1000 femmes blanches contre 1000 chevaux était un véritable projet qui n'a pas abouti. Jim Fergus a rebondi sur cette idée délirante pour construire son roman avec l'histoire suivante que l'on présente comme vraie. 18 septembre 1874. Little Wolf, chef des Indiens, né en 1820, mort en 1904, quitte son campement pour rencontrer le président des États-Unis, Ulysse Grant. Reçu en grande pompe avec sa délégation, il évoque les blessures tant morales que physiques infligées à son peuple et qui ne s'effaceront jamais. Il propose un marché qui puisse, non pas réparer, mais qui contribuerait à combler en partie le fossé d'incompréhension qui existe entre les indigènes et les Wassichus, les Blancs. Il s'agit d'échanger 1000 femmes blanches contre 1000 de leurs chevaux pour favoriser l'intégration. Ainsi, poursuit le chef indien, nos guerriers logeront leurs graines dans le ventre des femmes blanches. Elle s'épanouira dans leurs entrailles, et la prochaine génération de nos enfants viendra au jour dans votre tribu pour jouir de tous les privilèges qui y sont associés. En entendant cela, Julia, l'épouse du président Grant, s'évanouit, tandis que les membres du Congrès se mettent à huer Little Wolf, qui sera reconduit dans sa tribu sous bonne escorte. Little Wolf a participé à tous les combats menés par les Indiens des plaines du Nord dans les années 1860-70 contre l'invasion blanche. Il conduit, en 1878-79, la longue marche qui ramène les Cheyennes du Nord, déportées en territoire indien, vers leur terre du Montana. Little Wolf ne va pas participer personnellement à la bataille de Little Bighorn River le 25 juin 1876, car il campe plus loin sur la rivière. Il ne participera pas à la campagne contre les Sioux en 1876-77. Pendant l'attaque du village d'hiver, avec Dulknife, sur Crazy Woman Creek, le 25 novembre, Little Wolf attire sur lui le feu des soldats pour couvrir la fuite des femmes et des enfants. Il reçoit 7 blessures par balle, mais cependant il va réussir à fuir, à se rétablir. Il fait sa reddition en mai 1877 à Fort Laramie en compagnie de Dulknife. Les Cheyennes espéraient vivre avec les Lakota, mais ils sont envoyés sur la réserve Cheyenne du Sud dans le territoire indien, où ils trouvent aussitôt des conditions de vie extrêmement difficiles. Au début septembre 1878, Little Wolf décide, toujours avec Dulknife, de quitter cette réserve pour tenter de regagner leur terre du Montana. Ils sont suivis d'environ 300 hommes, femmes et enfants. Ainsi va commencer la longue marche des Cheyennes. Les Indiens en fuite sont activement poursuivis par l'armée et des milices, mais réussissent cependant à passer. Après la traversée de la Platte, ils se séparent, tandis que Dulknife, avec les malades et les plus faibles, va tenter de rejoindre l'agence du Red Cloud. Little Wolf et les siens réussissent à atteindre la vallée de la Powder River dans le territoire du Montana, et à s'y cacher jusqu'au printemps 1879. Le Cheyenne, Two Moons, devenu éclaireur de l'armée, va les convaincre de faire leur reddition. Le 27 mars 1879, Little Wolf se rend à Fort Keogh et remet ses armes au colonel Nelson Miles. Little Wolf et certains de ses guerriers doivent signer un engagement comme éclaireur dans l'armée. C'est la condition imposée, absolue, pour laisser les Cheyennes vivre dans le pays de la Tongue River. La guerre ayant cessé dans les plaines du Nord, cet engagement ne contraint cependant pas Little Wolf et ses guerriers à combattre leurs frères. Brisé moralement, aussi bien que physiquement, Little Wolf et de nombreux Cheyennes sombrent dans l'alcoolisme et le désespoir. En 1880, Little Wolf, alors qu'il était ivre, se prend de querelle avec un Cheyenne et le tue. il s'exclut alors lui-même du conseil des chefs et vivra volontairement à l'écart de la communauté jusqu'à sa mort en 1904. Alors j'ai lu d'autre part fait que cette querelle c'était à cause de quelqu'un qui insultait sa fille et bien sûr il a pris sa défense. Avec ce projet d'échange avorté, Jim Fergus a essayé d'imaginer quel genre de femmes pouvaient vivre dans ces contrées indiennes. Femmes blanches abandonnées, mises à l'index de la société, déjà fortes de leur difficile vécu. Jetées dans un monde inconnu, dans ces grands espaces, dans l'immensité de cette nature parfois très hostile, effrayante, au climat très dur. Elles ont mené une vie nomade, à la limite de ce qu'elles-mêmes n'auraient jamais pu imaginer, et ont développé beaucoup de puissance, ainsi qu'une grande résilience pour survivre. Une critique légère peut-être sur l'aspect limite caricatural de certains procès portraits de femmes, toutes avec des vécus terribles, des origines, des personnalités différentes, inventées par l'auteur, mais qui n'en demeurent pas moins formidables. Il a condensé dans ses portraits la réalité de la société américaine du XIXe siècle. Ah, les femmes étaient loin d'y avoir la part belle. Hein. Enfermement dans de terribles asiles psychiatriques lorsqu'on l'on est femme et que l'on refuse les normes de la société. Telle May Dodd, notre narratrice, qui écrit « Je dus subir d'atroces traitements prescrits par le bon docteur, des injections d'eau bouillante dans le vagin pour calmer, entre guillemets, mon énorme besoin d'appétit sexuel. Je restais confinée au lit des semaines entières, comme si je n'existais pas, en subissant l'humiliation d'utiliser le bassin exclusivement. C'était une prison, plus qu'un hôpital. Et n'oublions pas les nombreux viols de la part du gardien. » Quelle vie aussi que celle des sœurs Kelly, enfants et jeunes femmes abandonnées, livrées à la prostitution, condamnées à voler. Et Fémie, très belle Fémie, refusant l'esclavage, voulant briser cette chaîne, elle confirme « Mon histoire, celle que ma mère et moi avons vécue, est celle d'un peuple arraché à son pays d'origine pour être réduit à l'esclavage dans des lieux inconnus. » Il fait renaître ces femmes marginales dans un monde parallèle, un monde dit de sauvage, sans aucun repère, sans aucun code connu, avec quelques missions essentielles. Apprendre, réapprendre à vivre, s'adapter et se faire reconnaître en tant que femme dans un inconnu absolu, et en même temps transmettre. Transmettre la vie, c'était leur contrat de départ. Transmettre une part de leur identité féminine, de leur ancien monde à travers leurs origines, leur personnalité, leur éducation, leurs croyances. Elles n'avaient pas le choix. Mais celles-ci sont restées, mais celles qui sont restées ont été des modèles d'adaptation durant la petite année racontée dans ce roman où nous suivons pas à pas la transformation magistrale de ces nouvelles épouses dans leur vie quotidienne. Elles se sont dépassées, surpassées, ont tout supporté, ont acquis les compétences, les qualités, les savoirs indispensables dans leur nouveau milieu. Obstinées, elles cherchent aussi à établir toujours plus d'égalité entre les sexes. Revendication de même droit, expression dans les conseils d'Indiens, construction d'un sauna. Elles se sont imposées dans une grande humanité, avec des qualités de tendresse, d'amour pour leur nouvelle famille, en créant de véritables liens d'attachement. Parmi les autres personnages féminins, il ne faut surtout pas oublier ces femmes indiennes qui ont subi cet échange, femmes contre chevaux, avec pour conséquence de vivre sous le même toit, enfin sous le même tipi, d'être remplacées par les femmes blanches qui épousaient parfois leur mari. Indiennes étonnantes, révoltes silencieuses, parfois mauvaises dans les regards, grande intelligence commune, apprivoisement et transmission réciproque au fil du temps, des us et des coutumes. Alors, les hommes aussi, de part et d'autre, Les Indiens, perçus comme de grands guerriers, porteurs et garants de leur tradition avec un sens très développé de l'honneur, de la parole donnée, mais qui commettent aussi des actes guerriers ou non, du domaine de l'horreur, comme la mutilation des bébés des tribus adverses, racontée par May. Dans cette sacoche en cuir se trouve le pouvoir de la tribu Shoshone que nous avons volé pour donner à nos petits. Comme un bijou de valeur, l'homme qui dansait l'offrait à sa femme. Je devinais d'instinct qu'il s'agissait d'un membre humain, un épouvantable trophée barbare. Le gouvernement américain, les militaires, ne sont pas en reste. Eux qui ont exilé de leur terre, massacré ces Indiens déchus qui refusaient de se plier et les ont contraints à vivre dans des réserves. Envers et contre tout, ce choc de culture entre deux mondes que tout semble opposer met en évidence des valeurs, des sentiments, des émotions universelles exprimées de manière très différente. Je ne vous raconterai pas les vies de May Dodd, Martha, les sœurs Kelly, Gretchen la Suissesse, Sarah, Femi et tous les autres. Lors de l'assaut donné par les militaires, beaucoup de femmes ont péri, comme Helen Flight, extraordinaire ornithologue. Debout, devant son tipi, les pieds bien campés sur le sol, la pipe calée au coin de la bouche, occupée à charger la gueule de son fusil et tirer sur les soldats. L'un d'eux lui logea une balle en plein front. Si vous avez lu l'histoire, vous les connaissez toutes. Dans le cas contraire, vous serez peut-être tenté d'ouvrir le livre. Cette histoire n'est pas une thèse d'ethnologie, juste un roman bien documenté, dense, touffu, où les frontières entre le vrai et le faux ne sont pas nettement définies. Jim Fergus déploie une écriture très sensorielle. J'ai vécu cette histoire, j'ai tout ressenti dans mon corps. Je me suis crispée, avec parfois l'estomac serré. J'ai eu peur, c'était trop dur. Trop violent. Trop de guerre, trop de mœurs. Révoltée parfois par la perversité de l'homme, la pédophilie par exemple. J'ai voyagé dans des paysages d'un extrême à l'autre, ingrats mais aussi superbes. J'en ai